Nous sommes convertis à Dieu, nous sommes pour ainsi dire en chemin. Nous sommes en marche vers notre patrie céleste. Et c'est d'ailleurs à juste titre que l'apôtre Pierre lui-même, à un moment donné, a dit que nous chrétiens, nous étions comme des étrangers et des voyageurs sous la terre. Est-ce que vous concevez ces choses ? Nous sommes de passage seulement. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons avoir ici-bas cette terre, mais la destination, la destinée, c'est le ciel de gloire. Nous sommes donc en voyage vers notre demeure céleste et éternelle. Et pour réussir ce voyage, Dieu nous a laissé quelques recommandations dans sa parole, recommandations pour bien réussir ce voyage. Et j'aimerais ce matin, permettez-moi de vous citer trois de ces recommandations. Est-ce que vous voulez les découvrir ? Trois recommandations pour faire bonne route. La première recommandation que Dieu nous a donnée, nous la retrouvons à travers les paroles que Joseph a communiquées à ses frères. Alors pour cela, il faut aller dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, et découvrir ce que Joseph va dire à ses frères. Au verset 24, Genèse, chapitre 45, verset 24, « J'entends des bruits de feuilles et c'est bon signe. » Vérifiez avec moi ce que dit la parole de Dieu. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, et voilà une première recommandation, ne vous querellez pas en chemin. Alors pour bien comprendre cette parole, cette recommandation, il faut aussi peut-être poser le contexte de cette parole. Et on remonte à quelques années en arrière, après un long chemin d'épreuves et de souffrances, Joseph est maintenant hissé à la deuxième marche de tout le royaume égyptien. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai envie de rajouter providentiel, Dieu a amené devant Joseph les frères de ce dernier. Les mêmes qui, des années auparavant, avaient vendu leur propre frère, vendu Joseph aux marchands d'esclaves. Les voilà, parce que Dieu l'a voulu, se tenant debout devant le gouverneur de toute l'Égypte, à savoir leur propre frère, Joseph. Mais Joseph, à ce moment-là, ne garda pas rancune envers ses frères. Bien au contraire, vous savez ce qu'il a fait. Et on peut bien comprendre que Joseph est ni plus ni moins un type du Christ. Joseph, non seulement n'a pas gardé rancune, mais il leur a pardonné leur faute. Mieux encore, Joseph leur a même proposé de venir habiter en Égypte sous sa protection. Et vous avez compris que les frères de Joseph ont été bien intéressés par cette proposition. Et à ce moment-là, ils durent donc repartir au pays de Canaan pour aller chercher leur père qu'ils avaient laissé là-bas, le papa Jacob. Et vous pourrez relire toute cette histoire dans Genèse, les versets et tous les chapitres 40. C'est très intéressant de voir tout ce parcours, la vie de Joseph, et puis aussi la faute de ses frères qu'il a vendu, et puis aussi la réconciliation qui a eu lieu à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là précis que Joseph, avant que ses frères repartent, retrouver leur père pour à nouveau le ramener en Égypte, Joseph va leur dire, et je suis sûr avec une tendresse, avec un amour profond, « S'il vous plaît, mes frères, ne vous querellez pas en chemin. » Joseph, pour moi, c'est le type même de Christ. Il était empreint d'amour. Lui qui avait vécu l'injustice de la part de ses propres frères, le voilà manifestant les sentiments même de Jésus-Christ, va leur supplier, « S'il vous plaît, ne vous querellez pas. » Il y avait assez de drames dans cette famille. Il fallait maintenant laisser place à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de beau, l'amour, la joie, la paix. Mes frères de grâce, celui qui vous a pardonné vous dit maintenant, ne vous querellez pas en chemin. Joseph, en adressant cette recommandation, pensait bien sûr aux querelles que ses frères auraient pu avoir entre eux, en se rappelant par exemple leur propre faute. Imaginez-vous, peut-être Ruben, qui est en train de dire, mais c'est à cause de vous. C'est vous qui avez eu l'idée de le jeter dans la fosse. D'autres vont dire, mais oui, mais c'est toi qui as eu l'idée de pouvoir le vendre. En fait, c'était Judas qui a eu cette idée de pouvoir le vendre aux Madianites. Et les Madianites, après, en retour, ont vendu Joseph aux Égyptiens. C'est tout cela que Joseph voulait prévenir en disant, ne vous querellez pas en chemin. Joseph également voulait aussi prévenir un autre sujet de dispute qui aurait pu avoir entre Joseph et ses frères, entre, entre les frères de Joseph, excusez-moi, pendant le chemin du retour. La question fatidique, la question difficile, qui allait dire finalement la vérité au papa Jacob ? Parce qu'il faut le savoir, et c'est pour ça que je vous encourage à pouvoir relire toute l'histoire. Jacob n'était pas au courant que son avant-dernier fils était en vie, Joseph. On lui avait fait croire, tout au moins ses fils lui avaient fait croire, que Joseph avait été dévoré par une bête féroce, mais il n'était pas au courant. Et là aussi, ça aurait pu être un sujet de dispute. C'est toi qui iras dire au père, puisque tu es l'aîné, Ruben, c'est toi qui iras dire finalement la vérité. Et ça aurait pu être aussi un autre sujet de dispute. C'est tout cela que Joseph a voulu anticiper lorsqu'il exhorta ses frères à ne pas se quereller en chemin. Et au travers de cette recommandation que Joseph a laissée en chemin, puisque nous aussi nous sommes en chemin, a laissé en chemin à ses frères, j'ai l'impression ce matin que Dieu veut nous dire la même chose. Mes fils, mes filles, ne vous querellez pas, ne vous querellez pas en chemin. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Vous savez, nous formons nous aussi une grande famille. Dans la famille de Joseph, il était en tout finalement 12. 12 fils, mais nous, nous sommes plus nombreux que cela. Il n'y a pas que cette église locale. Nous formons cette famille universelle. Nous sommes des millions et des millions de génération en génération. Nous sommes une grande famille. Nous sommes tous fils et filles du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et nous sommes tous en marche vers cette patrie céleste, en marche, alléluia, vers notre Dieu qui va nous accueillir au travers de son Fils Jésus qui viendra sur les nuées et nous serons transformés en un clin d'œil, alléluia, à son image. Et je crois que ce matin, le Seigneur désire nous voir toujours dans l'unité. On n'avait même pas parlé avec Fabrice. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration que peuvent avoir nos chantres. Avoir cette liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, pour pouvoir chanter, nous sommes un dans un lien d'amour. On a besoin, oui, de nous lever, comme ça a été dit, et de pouvoir servir la cause du roi des rois, parce qu'il y a des gens qui meurent. Et nous pourrons le faire que dans l'unité, que dans l'amour, que dans la paix. Qu'allons-nous raconter aux gens à l'extérieur? Qu'allons-nous leur parler d'amour et de paix et de joie, si nous-mêmes, nous ne vivons pas ces choses? Jésus, à un moment donné, devant ses disciples, volontairement à exprimer cette prière sacerdotale. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Et cette prière toujours résonne, année après année, décennie après décennie. Et le Seigneur voudrait tellement que ces choses puissent pleinement se vivre et se réaliser parmi son peuple. Quand on lit le livre des Actes et des Apôtres, on découvre que nos premiers frères et sœurs, les premiers membres de la première église de Jésus-Christ, l'église des premiers siècles, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Actes chapitre 4 et le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est quoi être qu'un cœur et qu'une âme? Être un? Être uni. Nul ne disait que ses biens lui appartinrent sans propre, mais tout était commun entre eux. Il y avait une telle unité que même leurs biens et puis étaient tous en commun. Une unité de cœur, une unité d'âme, d'esprit. Une seule volonté, un seul désir, glorifier leur Père céleste. Quel miracle! Et ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Si nous laissons le Saint-Esprit nous unir les uns les autres, bien sûr, nous unir sous la base de la parole de Dieu, mais nous unir d'une manière concrète, au travers et par le biais de l'amour, et puis par le biais de la paix, bien sûr. Plus de 3000 âmes qui étaient là, qu'un cœur et qu'une âme. Et vous avez vu comment, après, dans quelques chapitres suivants, les disputes, les querelles ont commencé à éclater entre les hellénistes et puis les juifs. Problèmes matériels et autres, et puis... Voilà que vient être installé le service des diacres. Remarquez, le Seigneur, il sait bien rebondir. Il a fallu ces querelles pour que naisse un nouveau ministère, un service particulier, celui des diacres. Vous savez, le Seigneur, il n'est jamais à court. Il a dit, il faut que les scandales arrivent. Mais malheur, par qui ces choses arrivent? Et nous ne voudrions pas être sous le coup d'un joug, mais être agréable aux yeux du Seigneur. Quand la grande famille de Dieu, quand dans la grande famille de Dieu, nous laissons place à la médisance, nous laissons place à la querelle, nous laissons place à l'orgueil ou d'autres mauvaises actions, alors nous contribuons nous-mêmes à détruire l'unité de l'esprit qui doit régner entre nous. Et personnellement, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, je ne veux pas être un instrument de l'ennemi pour pouvoir détruire ce que Dieu lui-même a mis en place parmi nous. C'est tellement important. Frères et sœurs, veillons à cela. C'est ce qui s'est passé à un moment donné dans l'église locale de Corinthe. Cette église qui avait entre autres les 9 dons, et nous lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 20, ce que l'apôtre Paul va leur écrire, parce que l'apôtre Paul, en ayant écho de tout ce qui se passait, avait de grandes craintes. Et d'ailleurs ce mot, vous le retrouvez juste dans ces deux versets, 20 et 21, trois fois, à trois reprises. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Jésus pourrait même parler en ces termes. Je crains de trouver des querelles. Je crains de trouver de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Il va dire au verset 21, je ne sais pas si on l'a. Merci, ma sœur. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. L'apôtre Paul, il n'était pas encore à Corinthe, mais il avait déjà des appréhensions, des craintes, des choses qui allaient lui faire souffrir parce que lui aussi avait les sentiments de Christ au-dedans de lui. Et il appréhendait en venant dans cette église locale de retrouver tout à nouveau ses querelles, ses cabales. Et je vous dis, et c'est la Bible qui le dit, malgré tout, néanmoins, cette église avait les 9 dons. On n'impressionnera jamais le Seigneur avec nos dons spirituels, que je peux prophétiser, et puis après me retrouver hors sujet, lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire autre chose. Et que je voudrais encore mettre devant vos yeux, c'est Éphésiens chapitre 4. Regardez ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Écoutons bien. Ne nous habituons jamais à écouter la parole de Dieu. Recevons-la avec douceur. Tu l'as déjà entendu? C'est la 50e fois que tu l'entends? Alors accepte la 51e fois. Peut-être serait-ce cette 51e fois. Cette parole pourra enfin pénétrer au plus profond de ton âme. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il est donc de notre responsabilité de tout faire, ce qui est en notre pouvoir pour conserver l'unité de l'esprit parmi nous, frères et sœurs. Et je crois que si on est là ce matin, c'est parce que nous le désirons réellement. Que tous, à commencer par ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils voient que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. Oui, nous avons chanté tout à l'heure. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais que ce ne soit pas que des paroles, que ce soit une réalité. Je crois que c'est une réalité, ou bien je me trompe. C'est une réalité, amen. Il nous faut conserver l'unité de l'esprit en ayant les uns et les autres des rapports de paix et d'amour. Et je crois que, à ce moment-là, nous ferons bonne route et nous serons fin prêts lorsque Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Alléluia, que Dieu soit béni. Une autre recommandation que Jésus-Christ désire nous donner, et qui peut-être est en relation, en intime relation avec ce que nous venons de partager. On vient de voir, ne vous querellez pas en chemin. Voilà la première recommandation. Il y a une autre recommandation que Jésus lui-même nous exprime ce matin. On la retrouve dans Matthieu chapitre 5 et le verset 25. Regardez avec moi. Matthieu chapitre 5, verset 25. Jésus qui parle et qui donne bien sûr ses conseils à ses disciples, qui veut bien entendre, et ce matin nous adresse à nouveau ses paroles, il nous dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ce n'est pas seulement bien qu'une petite histoire que le Seigneur a donnée là, mais bel et bien une recommandation spirituelle pour chacun d'entre nous ici présents. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire ? Essayons de comprendre ce verset 25 d'une manière spirituelle. Peut-être dire dans un premier point que tous les hommes, tous nous sommes en chemin vers le juste juge. Ah, j'aurais cru entendre un amen, la mince. Le juste juge, nous le connaissons, c'est Dieu et lui il ne se trompe pas. Le juste juge, c'est celui qui a dit qu'il ne prendra pas le coupable pour innocent. Le juste juge, c'est celui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Alors bien sûr, j'anticipe, notre jugement à nous ne sera pas le même jugement que vont connaître les impies et les incroyants. Les impies et les incroyants, ils seront devant le grand trône blanc. Mais la Bible nous dit aussi que nous, chrétiens, nous serons devant le tribunal de Christ et nous serons néanmoins devant le juste juge. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il nous faudra comparaître devant le juste juge. Et nous voudrions pas, lorsque nous serons devant le tribunal de Christ, être dans la confusion, parce qu'il nous demandera compte de tous nos de ce que nous aurons fait avec nos talents. Est-ce que nous aurions servi la cause du roi des rois dans notre génération, dans notre vie, au travers de notre cheminement terrestre ? Oui, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. Tous les hommes sont en chemin vers le juste juge. Mais ce que Jésus veut dire, et je vais droit au but, si nous avons un différend avec notre prochain, il est urgent, il est important, frères et sœurs, de nous réconcilier avec lui. Alors que nous sommes en chemin vers le juste juge, il est urgent de pouvoir régler cette affaire. Vous savez pourquoi ? Après notre mort, ce sera trop tard. Notre sort sera scellé. On n'aura plus de moyens. Il n'y a pas de purgatoire. J'ai dit une fois à quelqu'un, un ami catholique, j'ai dit, mais je te donne 100 euros si tu me trouves dans la Bible s'il y a une notion de purgatoire. Et jusqu'à maintenant, cet argent, je l'ai déposé sur le compte et personne ne le réclame. Il n'y a pas de purgatoire, frères et sœurs. C'est aujourd'hui, pendant que nous en avons le temps, pendant que nous sommes en vie sur cette terre, pendant que nous sommes en marche, qu'il nous faut mettre notre vie en règle devant Dieu. Et j'ai envie de rajouter devant les hommes. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de pouvoir te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de pouvoir vivre l'unité. Peut-être as-tu besoin de le faire. Peut-être alors que je te parle de la part du Seigneur. Parce que si je donnais des choses qui plaisaient aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu ce matin. Et croyez-moi, quelquefois, il y a tout un combat. Je suis là dans mon bureau et l'ennemi ne voudrait pas que je dise certaines choses. Mais je les dirai quand même. C'est tellement important. Il y a la manière de les dire, bien sûr. Et je veux le dire avec tact, avec sagesse, avec amour. Je vous en supplie, réglez ces contentieux. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ton adversaire, c'est peut-être un membre de ta famille, c'est peut-être, peut-être un membre de l'Église, c'est peut-être quelqu'un à l'extérieur ou dehors. Jésus te dit la chose suivante. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ce matin, en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur, nous sommes venus présenter notre offrande à l'Éternel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu est en train d'expliquer qu'avant nos sacrifices, avant tout ce que nous pourrions lui donner, avant notre offrande, ce qu'il attend, c'est une pleine obéissance de sa parole. Et il nous demande, de la même manière qu'il nous a pardonné, il attend que nous puissions faire de même à ceux qui auraient pu nous offenser. Mon frère, ma sœur, tu veux bénéficier du pardon de Dieu ? Alors c'est simple, commence par pardonner aux autres leurs offenses. On a mis des gens dans les oubliettes de notre cœur. On a refoulé des situations qui nous ont blessés et Dieu, le juste juge, voit ce qui vous a été fait. Mais aujourd'hui même, avec l'assistance du Saint-Esprit, il est capable de vous donner la force de pouvoir aller au-devant de ces situations qui ne peuvent que vous alourdir quand Jésus-Christ reviendra. Vous savez, quand je vois les plongeurs qui mettent des ceintures de plomb pour aller au fond, ce sera pareil. Vous, quand le Seigneur sera sur les nuées, vous voudriez à ce moment-là décoller et vous ne pourrez pas. Parce qu'il y aura tous ces plombs de rancune, d'amertume qui vous retiendront bien sur la terre. Et Dieu ne veut pas ça ce matin pour vous. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, il nous est dit la chose suivante. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je dis, j'aime à le dire, le Seigneur nous a tout dit d'avance. C'est pour ça qu'il nous demande de nous tenir sous nos gardes. Il n'a rien laissé à côté. Il nous dit tout d'avance, afin que nous soyons intelligents ce matin pour agir en conséquence. Vas-tu à nouveau reporter ce que Dieu est en train de te dire? Quelqu'un a dit, demander à Dieu ce que nous-mêmes nous refusons aux autres, c'est l'insulter. Et cet homme, il n'était pas loin de la vérité, parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 9, Proverbes chapitre 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, autrement dit sa demande même, devient une abomination. » Dieu n'écoute même pas. Ah, tu ne veux pas pardonner à l'autre ? Alors continue à vivre une vie religieuse, complètement superficielle. Dieu s'est même détourné de toi un temps, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est important, il est primordial aux yeux de Dieu que tu puisses obéir à ce qu'il te demande. Pardonner, c'est briller au sein d'un monde de haine. Pardonner, c'est finalement pratiquer l'amour. Pardonner, c'est accepter de suivre les traces de Jésus. Et ces traces de Jésus restent indélébiles. Les traces de Jésus restent intactes. Il a marché il y a déjà 2000 ans de cela. Et partout où il allait, il prenait l'amour, il manifestait l'amour. Même jusque sur la croix, il a manifesté l'amour. Car vous savez, la première parole qu'il a exprimée, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et vous pensez qu'il s'adressait uniquement aux bourreaux ? Pensez qu'il s'adressait uniquement aux centeniers romains, à Pilate ou à d'autres, aux pharisiens, aux chefs religieux qui étaient jaloux de lui? Non. Jésus avait une vision beaucoup plus universelle, beaucoup plus grande. Quand il disait « Père, pardonne-leur », il apportait la condition de tout le genre humain. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est tellement important de réaliser cela. Quand Jésus était sur cette croix, il disait « Père, pardonne à Joël. Père, pardonne à mon frère, à ma sœur. Père, pardonne l'église d'Istre. » Il avait déjà tout anticipé. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quelle folie! Ce n'est pas les lances et les épées des soldats romains qui l'ont mené à la croix. Ce sont nos péchés. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Et volontairement, le prince de la vie a accepté de laisser sa vie sur la croix pour qu'en retour nous soyons réconciliés avec Dieu. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Peut-être même ce matin, ton adversaire c'est Dieu lui-même. Tu lui en veux, tu ne comprends pas pourquoi il te laisse peut-être dans une fosse. Peut-être qu'il te laisse, Dieu ne t'a jamais... D'ailleurs, c'est pas lui qui t'a placé dans la fosse. Et si par l'épreuve tu peux te sentir dans une fosse, crois-moi, Dieu est avec toi dans la fosse. Mais je ne pourrais jamais attribuer à Dieu des choses négatives. Parce que le mal ne peut pas venir de Dieu. Le Dieu que je connais, le Dieu qui est présenté dans la Bible, c'est celui qui veut notre bonheur, c'est celui qui veut notre épanouissement, c'est celui qui nous aime ce matin, c'est celui qui, lorsqu'il nous demande de pardonner, c'est pour justement que nous puissions nous-mêmes nous libérer. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, la chose suivante. Colossiens chapitre 3, verset 13, on va le lire ensemble. Je vais le lire. « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Toutes les fois où je pardonne, je ressemble à Jésus. Pas beau ça ? On chante « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir. » dans les difficultés, même dans les enfances que vous pourriez recevoir de la part d'autrui, vous avez la possibilité de ressembler à Jésus. ressembler à Jésus, c'est choisir de pardonner. Et la mission de pardonner commence d'abord peut-être au sein de notre famille, auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès de nos amis, de nos frères et sœurs dans la foi, et même auprès de nos ennemis, quand cela est possible. Pardonne, accorde-toi promptement, mon frère et ma sœur. Vous savez, certains pensent que, effectivement, pardonner, c'est se rabaisser, mais je le dis aussi, celui qui exerce le pardon, qui pratique le pardon, c'est quelqu'un qui est mature, spirituellement parlant. C'est quelqu'un, alléluia, qui aime Dieu. Et c'est quelqu'un, eh bien, qui possède le Saint-Esprit au plus profond de lui. Alors examinons nos cœurs ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est encore prisonnier dans notre cœur? Y a-t-il quelqu'un que nous retenons fermement, eh bien, dans notre cœur? Prenons aujourd'hui alors la décision de le libérer. Et alors en retour, Dieu, frères et sœurs, nous fera grâce. Vous savez, la mort peut surprendre n'importe qui. À un moment donné, Dieu y décide, il nous prend. Et alors, qu'est-ce que nous aurons à bien à répondre au Seigneur quand il nous demandera si notre cœur est en paix avec lui et avec tous? Amen. C'est tellement important. Or, c'est vrai, je ne parle pas ce matin de messages de prospérité ou autre, mais c'est ce dont l'Église a besoin d'entendre pour aller de l'avant, parce que nous sommes un peuple en marche. Et en chemin, Dieu nous donne les bonnes recommandations. Il nous a dit donc, ne vous querellez pas en chemin. Accorde-toi avec ton adversaire en chemin. Je voudrais terminer en vous donnant une dernière recommandation. C'est celle que nous retrouvons à nouveau dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 31 et le verset 8. Très rapidement, une dernière recommandation de la part de Dieu, par l'intermédiaire de la bouche de Moïse, qui va dire la chose suivante. « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, alors ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse, à ce moment, a environ une centaine d'années, presque 120 ans. Il est aux portes du pays de Canaan et il sait que pour lui, la route se termine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et voilà qu'il se tourne vers son successeur, un certain Josué, et eh bien, avec plein de compassion dans le cœur, plein de courage dans le cœur, il va lui dire, c'est toi qui vas prendre la relève et qui va mener tout ce peuple dans le pays promis, qui va eh bien, l'amener vers la victoire. Mais écoute bien cette recommandation. La route sera longue, le chemin sera difficile, il y aura des embûches, il y aura des adversaires, il y aura des épreuves. Mais sache une chose, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors, Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Et on peut comprendre que Josué avait, eh bien, à ce moment-là, peut-être une pleine frousse. Petit jeune homme, il devait emmener tout un peuple eh bien, dans le pays promis, en face des géants. Oui, ce pays où coulait le lait et le miel, mais là où il y avait les géants, il avait besoin de ne pas craindre, mais au contraire de se rappeler que l'Éternel n'abandonne pas celui ou celle qui se confie en lui, que Dieu soit béni. Et quand je regarde eh bien, autour de moi les exemples, et puis même dans la parole de Dieu, tous ces hommes, ces femmes qui à un moment donné ont connu aussi la frayeur, la peur, Dieu n'a abandonné personne, mes amis. Dieu n'a pas abandonné Élie. Élie était à un moment donné si bas, dans la déprime, dans le découragement, au point qu'il demandait la mort. Mais le Seigneur l'a encouragé, il lui a envoyé, il lui a dépêché un ange, et Dieu l'a soutenu, l'a renouvelé. Dieu a soutenu Job, Dieu a soutenu les trois amis de Daniel. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y avait de quoi flipper. Excusez-moi, je les mets entre guillemets. On les a jetés dans une fournaise qui a été chauffée cette fois plus que d'habitude. N'allez pas me dire qu'il n'y avait pas une certaine appréhension. Mais Dieu, néanmoins, était à leur côté. Alors, vous pensez que Dieu vous abandonnera? Je regarde un petit peu le monde autour de moi et on sent effectivement que les gens sont de plus en plus dans l'inquiétude. Vous avez vu cette guerre qui risque peut-être même d'éclater? Vous suivez le journal comme nous. Et on ne veut pas nous avoir les yeux fermés pour dire que tout va bien, tout va bien. La Bible est claire, il dit, vous entendrez des bruits de guerre et des guerres s'installeront. Tous ces feux eh bien, qui se produisent, il y a eh bien, le début d'un jugement, le Seigneur est à la porte et c'est vrai que tout s'accélère. Jérusalem est encore en sursis, il y a tout un enjeu et il faut constamment regarder vers Jérusalem parce que tout se passera, c'est spirituel ce qui se passe là-bas. C'est le baromètre même eh bien, de ce monde et les aiguilles eh bien, s'excitent parce que le Seigneur, alléluia, se lève dans son trône et il est à la porte et il vient rechercher les siens. Et nous sommes en marche, frères et sœurs, nous sommes en voyage et nous ne voudrions pas nous encombrer de choses inutiles, mais nous rappeler ce matin, oui, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura même peut-être des découragements, mais le Seigneur est à nos côtés pour nous rappeler que nous n'avons pas à craindre, mais que nous devons nous rappeler que notre seul abri se trouve dans ce puissant secours qu'est Jésus-Christ. Juste ce psaume 46, pour terminer, psaume chapitre 46, les versets 1 à 3, il nous est dit au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Mon frère, ma sœur, tu es dans la détresse ce matin, mais lève la tête, lève les yeux et regarde ce Dieu d'amour qui ne t'a jamais abandonné. Il sera à tes côtés et il te soutiendra. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Tout chancelle autour de toi. C'est le chaos autour de toi. Tout peut peut-être même s'agiter au plus profond de ton cœur. Invoque Dieu. Regarde ce Dieu, alléluia, qui se propose d'être un abri pour toi, un abri sûr. Celui-là même qui est capable de te prendre par la main et te donner d'être fin prêt à ce divin rendez-vous. On l'a entendu au travers des dons spirituels. C'est pour cela, quand il y a des dons de prophétie, accusons quelques temps de secondes de silence. Ne nous empressons pas de prier ou de parler de suite après. Apprenons à nous accorder quelques secondes parce que Dieu parle et il ne parle jamais en vain. On va prier le Seigneur, frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous croyons tous, et nous sommes pleinement convaincus que tu fais route avec nous. Quelquefois, il nous a semblé que tu n'étais plus là. Mais au final, c'est toi qui nous portais. Et nous ne nous rendions même pas compte de ces choses. Seigneur, toi qui n'as pas épargné ton propre fils, tu l'as dit à combien plus forte raison vas-tu nous donner tout ce dont nous avons besoin. Merci pour ces précieuses recommandations ce matin. Seigneur, nous ne voudrions pas ce matin être des auditeurs oublieux et laisser les corbeaux spirituels venir picorer toute cette semence que tu as déposée dans nos cœurs ce matin. Mais tu nous as dit à tous de ne pas nous quereller, mais de préserver toujours l'unité. Ce matin, tu nous as invité certaines personnes à pouvoir s'accorder, à pouvoir accepter le chemin de la réconciliation et du pardon. Parce que Seigneur, tu ne veux pas qu'ils restent pour compte lorsqu'ils comparaîtront devant toi. Seigneur, je t'en supplie, aujourd'hui même pour celui ou celle qui est dans la crainte, dans la frayeur, qui est dans l'agitation, Seigneur, rassure son cœur et rappelle-lui que tu es à ses côtés au nom de Jésus. Juste accorder quelques minutes, frères et sœurs, et peut-être que ce message répond parfaitement à votre situation ce matin. Il y a peut-être un besoin qui est là et qui te tourmente, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu es au cœur même d'un conflit, d'une dispute. Peut-être qu'autour de toi, c'est le chaos. Tu as besoin ce matin de demander la grâce de Dieu, le secours de Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, on l'a lu tout à l'heure. Et le Seigneur veut t'aider ce matin.